Merci de rester avec nous à l'écoute de RFI. Il est 11h à Paris, 10h en temps universel. Le journal, c'est tout de suite avec vous, Olivier Sherman. Olivier, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RFI. En Syrie, un accord trouvé entre le nouveau régime et les autorités kurdes pour inclure toutes les institutions kurdes civiles et militaires à l'État dans la province autonome kurde. Cet accord a été salué dans la joie, nous racontera Marie-Charlotte Roupy qui était sur place. Une attaque massive de drones ukrainiens à Moscou la nuit dernière, quelques heures avant le début des pourparlers de paix entre représentants ukrainiens et américains en Arabie Saoudite, des pourparlers qui viennent de commencer. Liverpool-PSG, l'une des affiches des huitièmes de finale, retour de la Ligue des champions de football. Les Anglais s'étaient imposés à Paris 1-0 la semaine dernière. On retrouvera à la fin de ce journal Cédric De Oliveira à Liverpool. En Syrie, après les pires violences depuis la chute en décembre de Bachar al-Assad, le président par intérim, Ahmed al-Sharré, annonce la fin donc de l'opération militaire contre les fidèles de l'ancien régime. Le bilan est lourd, plus de 1500 morts dans l'ouest du pays, dont plus de 1000 civils, majoritairement alaouites, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ahmed al-Sharré promet une enquête et reconnaît des massacres contre la minorité alaouite qui reste inquiète. Hier soir, un accord que l'on n'attendait plus a été signé entre les forces kurdes à la tête de l'administration autonome du nord-est syrien et le président par intérim. Il doit définir l'avenir de cette région qui représente presque 30% du territoire syrien. L'accord veut rattacher le territoire et ses habitants au reste de la Syrie. Des scènes de liesse ont eu lieu dans la province autonome du nord-est syrien comme à Hasakeh. Reportage Marie-Charlotte Roupy.
Le ciel noir de Hasakeh se strie d'étincelles rouges, des tirs de célébration en provenance des quatre coins de la ville. Un accord avec Damas a été passé, des milliers d'habitants du nord-est syrien laissent éclater leur joie. Un groupe d'adolescents se met à danser.
Un accord, ça veut dire la paix. Le calme va revenir. Et si Dieu le veut, tout ira bien.
On est heureux d'en avoir fini avec cette guerre civile, sectaire. Maintenant, c'est une Syrie unique.
Une clameur s'élève quand arrive sur la place le drapeau révolutionnaire. L'accord signé entre les autorités du nord-est syrien et Damas garantit la représentation politique de tous, la reconnaissance des droits des Kurdes et comprend l'intégration des forces politiques et militaires du nord-est aux institutions nationales. Mais ici, ce qui compte par-dessus tout, c'est l'accord pour un cessez-le-feu sur tout le territoire. Sa loi, la soixantaine, résume.
Nous avions peur que le sang coule, des tueries, d'être déplacés. La Syrie est fatiguée. Ça fait 12 ou 13 ans, tout le monde est fatigué, arabe comme kurde.
Plus discret, certains ont observé les festivités avec prudence depuis leurs fenêtres en attendant de connaître les conséquences de cet accord pour les zones kurdes. 8 comités ont été créés pour en superviser l'application et les négociations continuent à Damas. Marie-Charlotte Roupy, Hasakeh, RFI.
Une pluie de drones cette nuit en Russie, lancée par l'Ukraine. C'est l'attaque la plus importante depuis le début de la guerre. Les systèmes de défense antiaérienne russes ont intercepté et détruit 337 drones aériens, dont 91 au-dessus de la région de Moscou et 126 au-dessus de la région de Koursk, frontalière de l'Ukraine. Cet envoi massif de drones est intervenu à quelques heures de pourparlers en Arabie Saoudite entre Ukrainiens et Américains sur les bords de la mer Rouge à Jeddah. Une réunion cruciale entre les représentants du président ukrainien Volodymyr Zelensky et ceux du président américain Donald Trump, qui vient tout juste de commencer et dès l'ouverture des discussions, l'Ukraine veut la paix, clame un participant ukrainien. Alors l'objectif est bien de discuter des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais il s'agit surtout et d'abord de renouer le lien entre Kiev et Washington après la désastreuse altercation qui avait opposé les dirigeants des deux pays à la Maison-Blanche le 28 février dernier. Les précisions de Daniel Valo.
Ce sera la première fois depuis la querelle du Bureau Oval que des représentants des deux pays vont officiellement se rencontrer. Côté ukrainien, il y aura notamment Andriy Yermak, le chef de l'administration présidentielle, et les ministres de la Défense et des Affaires étrangères. Côté américain seront présents Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, et Mike Waltz, le conseiller à la sécurité nationale. Selon l'agence France Presse, la délégation ukrainienne va apporter une proposition de trêve avec la Russie dans les airs et en mer, une option de cessez-le-feu qui serait améliorer, facile à mettre en place et à surveiller. L'Ukraine espère ainsi convaincre les États-Unis de revenir sur le gel de leur aide militaire. Signal encourageant à la veille de la rencontre, Marco Rubio affirmait avoir bon espoir d'avancer sur cette question. Mais au-delà des éventuels résultats concrets de la réunion de Jeddah, l'enjeu sera bien d'effacer autant que possible le souvenir désastreux du 28 février dernier et de réparer la relation très abîmée entre l'Ukraine et son principal allié.
La France, de son côté, multiplie cette semaine les consultations avec ses partenaires européens pour tenter de définir les garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu. Le président Emmanuel Macron reçoit cet après-midi les chefs d'état-major des pays qui souhaitent prendre leurs responsabilités et qu'il a conviés à Paris. Cette réunion comprendra des responsables militaires de 30 pays appartenant à l'Union européenne et à l'OTAN, dont le Royaume-Uni et la Turquie. Vers des partenariats entre les États-Unis et la République démocratique du Congo pour l'exploitation de minerais congolais, ce n'est pas encore fait, mais des discussions sont en cours, confirme le Département d'État américain. À Washington, les détails avec Guillaume Nodin.
Ce ne sont encore que des discussions exploratoires, mais elles existent officiellement. La diplomatie américaine le confirme à au moins deux médias, l'agence Reuters et le Financial Times. Les États-Unis sont ouverts à la discussion de partenariats dans ce secteur qui sont alignés sur l'agenda America First de l'administration Trump, dit un porte-parole du Département d'État, qui note que le Congo détient une part importante des minerais critiques nécessaires aux technologies de pointe. Parmi les minerais concernés, il y a le cobalt, le coltan ou encore le lithium. Le problème, c'est que les gisements sont dans l'est du pays, actuellement en grande partie occupé par le mouvement Alliance Fleuve Congo M23 soutenu par le Rwanda, que les autorités de Kinshasa accusent de contribuer au pillage et à l'exploitation des minerais rares. La proposition de discussion vient de Kinshasa, qui a bien noté l'intérêt américain pour les ressources en minerais et terres rares. Elle a été exprimée par le président Félix Tshisekedi lui-même dès la fin février. La proposition ressemble d'ailleurs beaucoup à l'accord actuellement en discussion entre les États-Unis et l'Ukraine, qui donnerait un accès à des intérêts américains aux minerais en échange de garanties de sécurité. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
En Argentine, les recherches se poursuivent dans la ville portuaire de Bahia Blanca, touchée vendredi par des inondations soudaines, responsables de la mort d'au moins 16 personnes. Plus de 100 signalements de personnes recherchées par des proches ont été faits auprès des autorités locales. L'ancien président des Philippines, Rodrigo Duterte, arrêté par Interpol à son arrivée à l'aéroport international de la capitale Manille. Arrestation à la demande de la Cour pénale internationale qui, en raison de sa répression sanglante de narcotrafic lorsqu'il était au pouvoir. Une collision spectaculaire entre un cargo et un pétrolier en mer du Nord au large des côtes anglaises qui a provoqué un important incendie et le rejet de kérosène. Enfin, en football, 8e de finale retour de la Ligue des Champions avec plusieurs affiches au programme et notamment Liverpool-PSG, une revanche pour les Parisiens après leur défaite in extremis au match aller 1-0. À Liverpool, on retrouve notre envoyé spécial Cédric De Oliveira.
C'est un rituel lors de tous les matchs de Liverpool à domicile. 60 000 personnes qui s'égosillent à l'unisson sur le mythique You'll Never Walk Alone. Phil sera à Anfield et il est plutôt impatient.
Ah ouais, je vais crier très fort. Ce sera un jour bruyant. Anfield est un endroit très spécial où j'ai passé quelques-uns des meilleurs moments de ma vie. Je me sens vraiment chez moi.
Avec son public, Liverpool a ainsi renversé quelques situations ces dernières saisons en Ligue des Champions. Pour Neil Atkinson, qui anime le podcast The Anfield Wrap, le stade est précieux.
L'ambiance d'Anfield, elle arrive quand on l'appelle. Elle est là quand on en a besoin. Elle peut dépendre d'une décision arbitrale, d'un gros tacle, d'un grand moment. Anfield, ça fonctionne presque comme un organisme vivant qui réagit aux premières difficultés. Et Liverpool aura bien besoin d'Anfield contre le PSG.
Des Reds décevants à Paris la semaine dernière doivent valider leur qualification, alors qu'au PSG, on va visiblement tenter de se servir de cette ambiance si particulière, explique l'entraîneur Luis Enrique.
On sait que c'est un stade mythique d'Europe avec une histoire et c'est une motivation pour nous pour encore jouer un bon match avec une bonne équipe de Liverpool. Et peut-être même gagner, pourquoi pas. C'est notre objectif, c'est ça notre motivation.
Très jeune, l'équipe parisienne devra prouver qu'elle est capable de résister à la pression d'Anfield si elle veut créer un exploit. Cédric De Oliveira, Liverpool, RFI.
Liverpool PSG, début de la rencontre à 20h en temps universel, à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de RFI à partir de 19h40 en temps universel. Dans le même temps, l'Inter Milan défiera le Feyenoord Rotterdam, duel 100% allemand entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich. Un peu plus tôt dans la soirée, le Barça jouera contre le Benfica Lisbonne. Tout de suite, 8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide.